étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose, quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close.
Bonsoir, bienvenue sur Radio B dans Roman de Gare, l'émission consacrée à l'écriture et à la lecture. Un jeudi sur deux, à 18h30, je vous propose de retrouver une autrice ou un auteur. Nous parlerons de ses livres et de sa passion pour l'écriture. Sans oublier nos coups de cœur, les propositions de la quinzaine et les dates de séances de dédicaces dans la région proche. Pour cette 40e édition de Roman de Gare, j'ai le plaisir d'accueillir l'autrice Isabelle Vilain, dont le dernier roman en date, Game Over, est paru le 16 janvier 2025 aux éditions Tornada. Isabelle, bonsoir.
Bonsoir.
Vous préférez le mot autrice, romancière ou écrivaine lorsqu'on vous présente?
Alors moi, je préfère auteur. Donc, j'aime pas tellement le mot autrice. J'aime bien auteur avec un E ou écrivaine.
Voilà. Bien. Quels étaient vos rapports à la lecture et à l'écriture lorsque vous étiez enfant puis adolescente?
Enfant, je lisais pas beaucoup. Je me suis mise à la lecture en fin de CM2, début de collège, avec notamment des romans Jules Verne, des romans d'aventure. Et j'ai découvert Agatha Christie en quatrième. Et là, je suis tombée dans le bain du polar, enfin, du roman d'enquête, ce qu'on appelait à l'époque. Et j'ai dévoré tout Agatha Christie, Ex-Braya, Simenon, voilà. Et j'ai pas arrêté.
À l'époque, vous préfériez lire ou raconter des histoires?
Alors moi, je suis une enfant unique, donc je me suis toujours raconté beaucoup d'histoires. Donc j'ai toujours préféré inventer des histoires et me les raconter et raconter à mes amis. Et je pensais, et effectivement, la lecture est venue plus tard. Les auteurs sont, alors pas très souvent enfants uniques, mais en tous les cas, ça stimule notre imagination, clairement.
Votre parcours universitaire et professionnel n'a pas forcément de rapport avec l'écriture de romans. Vous avez travaillé dans la publicité, la presse, l'événementiel et l'organisation de salons professionnels. Alors, quand est apparu ce goût pour l'écriture? Quel a été le déclic?
Alors, j'ai toujours beaucoup lu de romans policiers, beaucoup plus que de romans noirs d'ailleurs, donc j'aime bien l'enquête. Et le déclic est venu, alors j'écrivais pas mal de nouvelles. Comme souvent les auteurs, en général, on a souvent débuté par l'écriture de nouvelles. C'est venu lors de vacances au bord de la mer. Et je regardais, mon fils et mon mari étaient en train de finir de passer leur diplôme de plongée sous-marine. Et je me suis dit que je n'avais jamais lu d'histoire qui se passait, enfin, en tout cas de meurtre qui se passait en milieu sous-marin. Et à ce moment-là, quand je les ai vus sortir de la plage du bateau, j'ai eu une histoire qui m'est venue tout de suite, bon, qui ressemblait plus à une nouvelle au départ, que j'ai un petit peu étoffée. Et j'ai acheté un crayon, un papier, et j'ai commencé à écrire comme ça, mais vraiment complètement par hasard, en me disant que ça serait une super idée d'avoir un mort dans les abîmes. Et j'ai eu la chance d'être éditée par une toute petite maison qui malheureusement a disparu depuis, mais voilà, donc l'aventure a commencé comme ça.
À cette époque, vous lisiez surtout des romans policiers, des thrillers, des romans noirs et des romans historiques. C'était une évidence d'écrire ce même genre de livre que vous lisez?
Oui, je ne me serais pas vue du tout écrire autre chose. Alors déjà, absolument pas de littérature blanche. Moi, le polar, ça m'amuse beaucoup. Ça m'amuse de le lire et ça m'amuse de l'écrire parce qu'on invente une enquête, on invente des fausses pistes, on crée des rebondissements. Et après, quand on a le regard du lecteur qui nous dit « Ah ben là, vous m'avez bien eu, là, je ne m'y attendais pas », voilà, c'est un super compliment. Le roman noir et le thriller, c'est plus compliqué parce que moi, je me repose sur une enquête. Et à partir du moment où j'ai mon enquête, mon intrigue et mes fausses pistes, je trouve ça assez, enfin, je dis pas que c'est facile, mais je trouve ça plus confortable. Le roman noir, quelquefois, sur 250, 300 pages, il se passe parfois pas grand chose. En tous les cas, il n'y a pas d'enquête. Et je trouve ça très, très compliqué à écrire. Et inversement, les auteurs de romans noirs, parce qu'on est vraiment une petite famille, entre auteurs de polar et de romans noirs, et les auteurs de romans noirs disent que pour eux, ça serait très compliqué d'écrire du polar. Donc voilà, on se complète très bien entre nous.
Vous avez commencé, comme beaucoup, par écrire des nouvelles. Quand avez-vous décidé de passer au format roman?
Justement, avec cette première grosse nouvelle que j'ai écrite, qui se passait sur la Côte d'Azur. C'était pas vraiment une nouvelle, c'était un peu trop gros pour être une nouvelle, pas assez pour être un roman. Et je trouvais que l'idée était vraiment sympa, et du coup, je l'ai étoffée, voilà. Mais je continuais à écrire des nouvelles. Mon éditeur, il a eu une très bonne idée, à savoir qu'il demande à ses auteurs, bénévolement évidemment et volontairement, d'écrire des nouvelles qu'il met sur le site de l'éditeur et que les lecteurs peuvent télécharger gratuitement afin de voir si le style de cet auteur leur plaît pour pouvoir acheter plus tard leur livre. Donc je trouve ça très intelligent. Et on en a écrit pas mal, j'en ai écrit avec une autre auteure, on a écrit à trois, on a écrit un recueil dont on parlera peut-être avec notre collectif des Louvres du Polar. Donc c'est un exercice vraiment très sympa, la nouvelle.
L'écriture de votre premier roman a-t-elle été plus simple que vous ne pensiez ?
Oui, l'écriture du premier roman, c'est assez facile. C'est le second qui est plus compliqué. Le premier, on se lance dans l'aventure, on ne connaît rien, on est content de ce qu'on a fait, on ne sait pas ce que ça va donner, on ne connaît pas la violence des retours, parce que c'est dur de se faire lire et d'accepter les retours critiques des lecteurs, ce qui est normal. Une fois que le premier a bien plu, là, l'écriture du second est plus compliquée parce qu'il faut pas déplaire et il faut pas, voilà. Le second était beaucoup plus difficile pour moi.
Votre premier roman s'appelle Un rendez-vous qui sent le sapin, sorti en 2000. Un titre qui sent bon les polars. Alors, moi, je dirais peut-être à la San Antonio, enfin dans l'esprit. On sent la patte de la publicitaire, là, non?
Oui, alors moi, j'étais pas conceptrice, rédactrice en publicité. Moi, j'étais chef de pub, donc je vendais de la pub. C'est pas moi qui cherche, qui trouve les titres. Hein. C'est très compliqué, un titre à trouver, surtout dans un polar. Donc là, c'est mon mari qui s'y colle en général. Il est très bon en titre. Mais les quatrièmes de couverture et les titres, c'est quelque chose où il faut être un petit peu décalé. Il faut sortir de notre histoire, c'est très dur.
Après deux autres romans, donc Cadavre aux olives, encore un titre cuisiné aux petits oignons, et La valse des corps morts, hein, un jeu de mots bien dans l'esprit des deux premiers. Vous arrivez en 2014 aux éditions Tornada, avec le début des aventures de votre héroïne récurrente Rebecca Delost, et le roman Peine capitale. 14 ans pour trouver un éditeur qui vous convienne, le parcours a été plutôt long. Vous aviez des doutes quant à la suite de l'écriture de romans, un moment ?
Non, alors... En fin de compte, c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai signé chez Tornada, je me suis lancée. Avant, j'écris un roman par an à peu près. Avant, c'était plus aléatoire, je faisais autre chose, c'était plus un passe-temps. Et j'ai vraiment décidé, quand j'ai vu le travail que faisait Tornada pour ses auteurs, qu'il fallait s'investir dans les salons, dans la publicité, dans les réseaux sociaux. J'ai vraiment pris un tournant en 2015 et j'en suis ravie. Voilà. Du coup, je ne les quitte plus depuis.
Vu les autrices et auteurs présents et le genre de romans proposés, les éditions Tornada étaient la maison d'édition qui vous convenait ?
Oui, alors une fois qu'on sait un petit peu ce qu'on recherche et surtout ce qu'on ne veut pas chez un éditeur, moi je m'étais fait une petite liste et c'est vrai que Tornada, a des couvertures qui sont très visuelles et très repérables. En librairie, c'est important parce que quand on n'est pas connu, la couverture fait beaucoup. Le deuxième point qui fait beaucoup, c'est le prix. Et Tornada a décidé de sortir en format poche dès le départ. Donc nous, on n'est pas en livre de poche, on n'est pas chez Pocket. On est directement en poche à un prix en dessous de 10 euros. Et on voit vraiment la différence en salon quand moi, je suis à côté de copains qui ont des grands formats à 22, 23 euros et qui ne sont pas connus parce que globalement, il ne faut pas rêver, ils sont très peu à être connus et à vivre de ce métier. Et bien, les gens tentent l'aventure avec un livre à moins de 10 euros. Plus difficilement avec un livre au-dessus de 20. Je trouve que ces deux points m'ont fait aller vers Tornada. Quand j'ai envoyé mon manuscrit, il y a trois maisons d'édition qui m'avaient répondu. Tornada était les premiers, donc j'ai signé avec le premier. Voilà. J'ai eu beaucoup de chance. Hein. Il y a une grosse partie de chance. Hein.
Je parlais de Rebecca de Lost, votre héroïne, chef de groupe au 36 Quai des Orfèvres, à l'époque le siège, l'état-major et les services communs de la direction régionale de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris. Côté grade, commandant, vous avez frappé la barre très haut dès le début avec Rebecca. Vous vouliez ce qu'il y a de mieux pour votre héroïne?
Oui, en fin de compte, je voulais que le lecteur vive avec un groupe à la CRIM. Donc, un groupe à la CRIM, il y a un commandant. Je voulais que ça soit une femme parce que je savais que ça allait être mon héroïne, j'espérais, récurrente. Et j'avais plus de facilité de me mettre dans la peau d'un personnage féminin que de masculin. Voilà, elle est commandante. Elle est rentrée à l'âge de 40 ans. Je voulais un groupe soudé qui, j'espérais, elle n'allait pas trop évoluer. Je ne savais pas. Je ne savais pas que j'allais écrire ce livre, hein, donc, dans la série. Voilà, ça me paraissait une évidence d'avoir Rebecca en commandante.
En quoi Rebecca Delhoste vous ressemble ?
Alors moi, je pensais vraiment qu'elle ne me ressemblait pas vraiment, parce que la pauvre, elle a une vie compliquée. Elle a eu des grosses épreuves qu'heureusement, je n'ai pas connues. Mais ce sont au départ mes amis lecteurs, et après des lecteurs qui me connaissaient un peu mieux, qui viennent me voir sur différents salons, qui me disent que je mets beaucoup d'elle, enfin qu'elle me ressemble, que je lui ressemble. Bon. Et je m'en suis rendu compte à un moment où j'ai un journaliste qui a fait une interview inversée, c'est-à-dire qu'il fallait que je réponde comme Rebecca aurait pu répondre. Et c'est là où je me suis rendu compte que, effectivement, j'avais mis beaucoup de moi, et de plus en plus. Les deux premiers de la série sont beaucoup plus sur l'action et sur l'enquête. Et plus ça avance dans la série, plus je mets de l'émotion et plus je mets de mon expérience.
Pourquoi avoir choisi comme nom de famille de votre héroïne Delhoste ? C'est presque un nom d'aristo perdu, hein, si on pourrait traduire le « de » puis le « Lost ».
C'est vrai, alors c'est vraiment à en chercher. Les prénoms et les noms dans les romans sont très importants. On a beaucoup parlé avec des auteurs de polars qui ont des héros récurrents. Et c'est vrai qu'on s'attache beaucoup et les gens nous parlent me parlent de Rebecca. Donc, bon, Rebecca, j'ai toujours beaucoup adoré ce prénom. Donc, le prénom, je l'avais. Et c'est mon fils qui a trouvé le nom de famille. Et on regardait la série Lost à l'époque, qui était une grosse série qui passait sur TF1, je crois. Et quand on a regardé ça, j'ai vu une actrice qui était rousse, qui était ingénieure dans la série. Elle ressemblait beaucoup, pour moi, à Rebecca. Et mon fils m'a dit, on n'a qu'à l'appeler Rebecca Lost. Et je lui ai dit, Rebecca Lost, ça ne fait pas terrible. Donc tiens, on va faire Rebecca Delhoste. Et voilà, et c'est parti comme ça.
Ça fait 11 ans que Rebecca Delhoste fait partie de votre quotidien, enfin au moins 11 ans que Rebecca Delhoste fait partie de votre quotidien d'autrice ou romancière ou écrivaine. Vivre avec elle et inversement est facile tous les jours?
Non, alors c'est très dur et ça, c'est dur parce qu'un auteur, même quand on n'écrit pas des séries avec des héros récurrents, on y pense 24 heures sur 24. On y pense la nuit quand on se réveille, quand on cherche une intrigue, on y pense tout le temps. En fin de compte, on y pense dans la rue, on se pose. Moi, j'aime bien me poser à des terrasses de café et j'écoute les gens. On est vraiment, notre cerveau fonctionne 24 heures sur 24. Au début, bon, je savais pas trop que j'allais écrire une série, donc ça allait. Et j'avoue que le dernier tome qui vient de sortir, la fin a été compliquée à écrire. C'est comme une amie, c'est comme une sœur. Écrire un dernier tome, c'est comme une séparation ou un deuil. C'est vraiment compliqué à vivre. Et c'est vrai que mon pauvre mari a quelquefois subi ma mauvaise humeur et ma tristesse, ma mélancolie. Ça peut paraître idiot pour des gens qui écrivent pas, mais c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé entre nous. Et moi, je sais que c'est la fin, mais il y a des auteurs qui font des prequels, du coup, parce qu'ils n'arrivent pas à se détacher de leur héros. Bon, moi, j'avais dit que je voulais passer à autre chose. C'est difficile, mais c'est pour ça que j'ai alterné avec des nouvelles, puis j'ai alterné avec un roman noir qui se passe dans les Alpes de Haute-Provence, au milieu de la série, pour vraiment faire autre chose et me déconnecter de mes personnages. Mais bon, j'étais contente de les retrouver.
Game Over, en bas de la quatrième de couverture, il est écrit « Inédit ». La vie littéraire de Rebecca aurait pu s'arrêter en 2022 avec de l'or et des larmes ?
Effectivement, je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'est pour une question légale qui mettent maintenant inédit. Hein. C'est pas du tout. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est nouveau, ça. Depuis 2024, tous les livres mettent inédit. Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est une parenthèse. D'accord. Mais non, je voulais vraiment qu'elle parte. Enfin, je voulais m'en séparer, donc je voulais un départ définitif. Voilà, c'est un départ définitif. Donc, dans De l'or et des larmes, il y avait encore une petite possibilité. Et puis, je m'attends. Non, je voulais vraiment en écrire un autre. J'aurais pas terminé ça avec De l'or et des larmes, effectivement. Je préfère mon départ dans Game Over.
Pouvez-vous nous raconter l'intrigue de Game Over ?
Alors moi, je suis toujours partie d'un thème de société. J'écris plutôt du polar, donc ce qu'on appelle sociétal. Donc je pars d'un fait de société qui me touche, et après l'intrigue, elle, est fictive. Mais le fait de société, évidemment, je fais beaucoup de recherches. Et je suis, comme beaucoup de gens, surtout de ma génération, en ce moment de plus en plus perturbée par les crimes gratuits. Et ce livre, j'ai commencé à y réfléchir il y a 2 ans, et malheureusement, depuis quelques mois, on voit que ça se généralise, de quelqu'un qui va descendre de chez lui, il va prendre le métro, et puis il va vouloir tuer quelqu'un parce qu'il est énervé. Toutes les anecdotes dans ce livre sont réelles, hein. Donc il y a un jeune qui jouait au Scrabble, sa voisine fait du bruit, donc une personne normale, vous, moi, on descend, on sonne et on lui dit de baisser le son, et ben non, maintenant on prend une batte de baseball, un couteau, et puis on tue, puis on rentre chez soi, et puis quand les policiers arrivent, il n'y a pas de souci, on se fait arrêter, hein. On se dit, ah bah voilà, bah, elle me faisait du bruit. Donc cette accumulation de faits divers vraiment monstrueux, j'avais hésité entre le crime de masse et ça, tout ça pour que justement Rebecca, qui me ressemble, soit dépassée elle aussi par tout ça. Donc je me suis dit, crime gratuit, en plus dans le milieu des jeux vidéo et voilà, de tous ces jeunes et moins jeunes d'ailleurs qui sont derrière des écrans et qui se font manipuler, m'intéressait beaucoup. Et donc voilà, j'ai inventé, l'histoire est totalement fictive, mais elle est arrivée aux États-Unis, donc en France, c'est jamais arrivé. Mais bon, les policiers avec lesquels je parle beaucoup pour voir si toute mon histoire est crédible me disent que malheureusement, ça risque d'arriver très bientôt en Europe.
On retrouve cette violence gratuite hein, sur les écrans, que ce soit vous disiez, dans les jeux, les réseaux sociaux et dans les chaînes d'infos hein, où c'est la surenchère qui prédomine. Pas facile d'en sortir indemne et pas seulement la jeunesse.
Ah non, non, là, moi, c'est le roman qui a été le plus douloureux pour moi, parce que bah, déjà, c'était le dernier. Et c'est vrai que j'ai discuté vraiment avec beaucoup de policiers. Et moi, j'arrive pas à comprendre. Et les policiers eux-mêmes sont démunis, parce que ce que me disent certains, c'est que avant, bon, il y a toujours eu des crimes monstrueux, mais il y avait toujours un mobile, hein. Il y avait des explications, il y avait des codes. En fin de compte, les crimes rentraient dans des cases et ils avaient la matière pour le résoudre. Et maintenant, il n'y a plus tout ça. C'est-à-dire, on tue pour rien, on tue parce qu'on s'ennuie, on tue. Et ça, c'est hyper compliqué à gérer émotionnellement. C'est hyper compliqué pour eux, évidemment, et pour nous qui essayons de retranscrire leur quotidien aussi. Voilà. Je voulais vraiment mettre dans la peau de ces policiers qui n'y arrivent plus parce qu'ils sont désemparés face à la violence qui grandit. Ils sont désemparés face aux zones de non-droit dans lesquelles même les pompiers vont plus. Et ils sont désemparés surtout parce qu'ils n'arrivent pas à résoudre les affaires.
11 ans après ses débuts littéraires, Rebecca est toujours commandant, plus au 36 quai des Orfèvres, mais au 36 rue du Bastion à Paris. Elle n'a jamais eu envie de monter en grade et de devenir, pourquoi pas, commissaire. Elle aime trop le terrain pour finir dans un bureau.
Oui, dans un, je crois que c'est dans Delors et des larmes, il y a son mentor, qui est commissaire divisionnaire, qui donc part et aurait voulu qu'elle prenne la suite. Bon, j'ai discuté avec pas mal de commandants et il y en a vraiment qui sont très très attachés au terrain et à la gestion d'équipe et pas à l'administratif parce que finalement, ben, quand on est dans un bureau tout en haut, là au Bastion, ils ne font plus que de l'administratif et de la gestion humaine. Et elle, oui, non, ça, je pense qu'elle n'aurait pas, enfin, c'est pas, voilà, je suis sûre qu'elle n'aurait pas aimé ça. Donc, je l'ai laissée jusqu'au bout avec son groupe. Alors, il y a eu des mutations, évidemment. Il y en a certains dans son groupe qui ont décidé d'aller voir ailleurs, mais l'essentiel du groupe est resté avec elle.
Le roman porte bien son titre, Game Over. Le jeu, celui de l'écriture des aventures de Rebecca de Lost, est terminé définitivement.
Définitivement. Je dis pas que je vais pas reprendre une partie du groupe. Je sais pas encore qui va la diriger, mais oui. Elle, je voulais pas écrire l'enquête de trop. Ben souvent, alors moins dans le domaine littéraire, mais souvent à la télé, les séries, on a l'impression qu'on tire sur la corde un peu trop. Et je m'étais dit que 6, une série de 6, c'était peut-être pas mal. Et puis de changer de personnage et d'endroit aussi. Mon prochain manuscrit va se passer dans le sud de la France. Donc voilà, je voulais explorer d'autres choses tout en restant évidemment dans le polar.
Vous ne vous arrêtez pas aux aventures de Rebecca de Lost, hein, puisque après Mauvais Genre, vous avez sorti Naissance, une nouvelle en 2019, À pas de loup en 2021 et deux romans à quatre mains avec Magali Collet, Descendre en héritage toujours en 2021 et In vino veritas en 2023 et toujours chez Tornada. Quand s'est passée la rencontre et quand avez-vous décidé de travailler ensemble avec Magali?
Alors moi j'étais chez Tornada avant elle et on s'est rencontrés un peu par hasard parce que je faisais gagner un roman. À sa sortie, on fait souvent des concours organisés avec mon éditeur et il se trouve que c'est elle qui l'a remporté. Donc je suis rentrée en contact avec elle, on a un peu parlé et puis là elle m'annonce qu'elle va signer chez Tornada, donc c'était quand même rigolo. On est devenues copines et on a écrit donc ces deux nouvelles. descendre un héritage. On a écrit une autre nouvelle à quatre mains pour un recueil. Et tous les lecteurs qui nous connaissent, alors bon, l'univers de Magali n'est pas du tout le même que le mien, hein, elle écrit des thrillers très très sombres, sans enquête. Et tous les lecteurs qui nous apprécient toutes les deux nous disaient ah, bah, vos deux univers, il faudrait écrire un livre, vous écrivez trop bien, ça serait super, etc. Bon. Ok, donc on a enregistré le message et un jour, il se trouvait qu'on était à une dédicace toutes les deux, on a commencé à parler de ça, on avait une ouverture sur notre planning, parce que ça aussi c'est compliqué, je serais incapable d'écrire, de mener deux projets littéraires ensemble, c'est pas possible, et on s'est dit, bah tiens, on va se lancer, donc on s'est vu une journée toutes les deux, on a fait un scénario de film, en gros, comme un scénario, et on s'est lancé dans l'aventure, et on a écrit un livre qui n'est ni elle ni moi, voilà, mais qui est une œuvre à part, ou qui mêle, bon, ça reste un roman policier parce qu'il y a une enquête, il y a un mort, mais ça a été très enrichissant, c'était une expérience que je recommande parce que c'est vraiment chouette.
Gérard Coquet et Patrick Manoukian, alias Yann Manouk, ont appelé leur projet à quatre mains Page Common. Vous ne vous êtes pas caché derrière un nom d'emprunt. Vous auriez pu vous appeler, par exemple, moi j'ai trouvé Magisacoville, par exemple.
On aurait pu, mais on ne l'a pas fait. On a beaucoup parlé avec, bah, avec Gérard, avec d'autres duo d'auteurs qui sont soit mariés dans la vie, soit copains, soit il y a pas mal de duos différents. Non, ça ne nous serait pas venu à l'idée de lancer ça autrement qu'en utilisant nos deux noms, effectivement. Sur la couverture, ça fait un peu beaucoup, mais non. On a gardé nos noms, déjà parce qu'on est quand même beaucoup moins connus aussi que Yann Manouk et Gérard Coquet. Qu'eux, ils pouvaient peut-être se le permettre, puis c'était un jeu pour eux. Donc non, on a gardé nos noms.
Magali Collet et vous faites partie des Louves du Polar. Pouvez-vous nous présenter cette association qui défend les auteurs de Polar?
Donc c'est un collectif qui s'est créé il y a 2 ans. Donc nous, Magali et moi, on ne fait pas partie du pool de départ. C'était, il y avait 5 auteurs qui étaient sur un salon, qui discutaient. Et en général, les salons donc, aux pauses, on discute de ce qu'on a lu, de ce qu'on va lire, de nos coups de cœur, etc. Et elles se sont rendues compte qu'elles ne citaient en fin de compte que des hommes, étrangement. Et elles se sont dit, mais quand même, c'est étonnant. Donc voilà, le salon se passe, on échange voilà, sur les réseaux. On se dit, tiens, on va regarder dans nos bibliothèques un petit peu. On se rend compte chacune que dans nos bibliothèques, il n'y a que des hommes, ou en tous les cas une grosse majorité d'hommes. Et de là est partie l'idée de créer ce collectif, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui écrivent, et qui écrivent très bien, qui écrivent différemment. Donc c'est pas du tout clivant en disant les hommes, non. On a beaucoup de copains qui nous soutiennent. Et maintenant, on fait des opérations, ça s'est vraiment bien passé, les libraires nous suivent. On se rend compte qu'il y a beaucoup plus de femmes dans les salons, parce qu'il y a quand même quelquefois des salons il y a une dizaine d'années où on était 2 ou 3 femmes sur 30 auteurs. Maintenant, alors on ne demande absolument pas l'égalité, hein, parce que de toute façon, il y a beaucoup plus d'hommes qui écrivent. Ce n'est pas le problème, on demande juste d'être un peu plus visible. On fait une opération avec les libraires dans toute la France, la Belgique, la Suisse, qui nous mettent en avant pendant un mois dans les vitrines. On a eu des partenariats avec Cultura, qui pendant un mois, leur mois du polar, qui nous mettent, nous on se déplace évidemment dans tous les Cultura pour dédicacer dans toutes les régions. Et eux nous font une grande table, et eux-mêmes, les libraires nous disent qu'ils découvrent des auteurs, parce qu'évidemment on a des têtes de gondole, comme on dit, qui sont Céline Danjean, Johanna Gustafsson, Cécile Cabanac. Il y a des auteurs très connus, puis il y a des auteurs moins connus, il y a des auteurs de romans noirs, de polar, il y a des auteurs jeunesse. On est 31, on a volontairement arrêté à 31, mais on parle de toutes les femmes auteurs et on met en valeur toutes les femmes auteurs en leur proposant des dédicaces aussi et en multipliant les opérations. Ça prend beaucoup de temps, ça c'est sûr, mais c'est très intéressant et on est très content de voir le résultat parce que ça prend pas mal. Il y a pas mal de blogueurs aussi qui nous suivent et qui nous soutiennent et qui lancent des challenges tous les mois pour que les lecteurs découvrent des femmes.
Le public des salons du polar est très majoritairement féminin. C'est plutôt une bonne chose pour vous ou vous pensez qu'elles sont aussi attirées par les auteurs parce que ce sont des hommes?
Alors, il y a un côté un peu midinette, hein, c'est sûr, ça on le voit, hein, parce que tous nos copains qui sont au plus souvent plutôt beaux gars, sympas, souriants, rigolos, voilà, ils ont des fils et des fils de lectrices fans. Mais non, ça dépend, on a quand même de plus en plus d'hommes qui lisent, alors qui lisent ou qui achètent pour leurs femmes. Donc, bon, je dis pas que c'est la majorité, hein, parce que ça reste effectivement un public très féminin. Mais non, on arrive à sortir notre épingle du jeu quand même. C'est vrai que je ne dis pas que quand Franck Tillier, Cédric Cyr, Alain arrivent sur des salons, Olivier Norek, Nicolas Lebel, tout ça, c'est compliqué, mais il y en a pour tout le monde. Hein. Donc, en général, dans les salons, moi j'aime bien les salons qui sont max entre 25 et 30 auteurs, c'est bien. Il y en a toujours pour tout le monde, parce qu'on a des univers vraiment différents et on se complète bien et on se connaît bien. On va, quand quelqu'un me dit bah, « moi j'aime Maxime Chatham et j'aime quand c'est super gore », bon, ben, je lui dis tout de suite, ben, c'est pas pour moi, je vais pas essayer de lui vendre mes livres, mais je lui dis, ben, allez voir Cédric Cyr, allez voir un tel, et les autres le font aussi, ouais. De façon très sympathique. Donc, ça se passe très bien.
Puis il y a un public qui vient pour vous aussi, les femmes,
oui,
et qui écrivent.
De plus
en plus. Eh oui, il n'y a pas de raison.
Je suis toujours très surprise, mais bon, c'est sympa quand vous arrivez à votre stand et qu'il y a déjà des gens qui font la queue. C'est assez agréable.
En tout cas, il y a toujours beaucoup de monde dans les salons du polar en France pour rencontrer les auteurs et les auteurs. C'est un moment que vous semblez apprécier. Vous êtes à l'aise, vous. Votre passé professionnel vous a aidé lorsqu'il a fallu aller à la rencontre de votre public.
Oui, moi, ça m'a beaucoup aidé. C'est marrant parce qu'il y a des auteurs, on sent que ce sont des artistes. Et les artistes, ils sont là pour écrire et ils veulent surtout pas passer au stade de la vente. Ça les intéresse pas. Ils se cachent derrière leur cahier, leur stylo et on sent qu'ils aiment pas ça. Alors, ils le font parce qu'on n'a pas le choix. Hein. Quand il y a 30 auteurs dans un salon, si vous êtes derrière votre téléphone, vous vendez pas. Hein. Ça, c'est clair. Mais moi, j'aime bien ça parce que on a un métier solitaire. On est tout seul devant notre écran toute la journée. Et rencontrer le public, moi, je trouve ça super. Donc, j'ai beaucoup moins de problèmes à le faire en face à face que de m'exprimer dans des tables rondes. Ça, j'ai un peu plus de mal encore. Devant 80 personnes, voilà, ça, j'ai plus de difficultés. Mais vendre mon livre, enfin, en tout cas, le vendre, l'expliquer et parler du polar avec des lecteurs, j'aime beaucoup ça. Je le fais avec facilité.
Et depuis le temps, vous vous déplacez toujours avec la même envie qu'au début, même si c'est loin ?
Je me déplace toujours avec la même envie, mais j'essaye de ne pas en faire trop. Parce que là, pour la sortie de Game Over, j'ai une année très remplie. Et c'est vrai que bah, quand on fait aussi des choses dans la semaine et que le week-end, on travaille, on fait des transports et qu'il faut être toujours au taquet parce qu'il faut avoir le sourire, il faut parler, il faut dire des choses intelligentes, évidemment, de préférence. Et ben, ça demande quand même un effort. Et on sent très vite qu'à certains moments du salon, quand on est moins au taquet, et ben, les gens passent devant vous et sans s'arrêter en fin de compte. Les salons, c'est fatigant. Donc j'essaye d'en faire un par mois et une dédicace en librairie par mois. Comme ça, je me garde deux week-ends avec ma famille. Je pense que c'est le bon. Mais le problème, c'est que les salons, il y en a beaucoup qui se passent dans les mêmes dates. Donc la rentrée, là, ça va être un peu chargé. Mais non, moi, j'ai pas le choix. De toute façon, à partir du moment où on s'inscrit à un salon, où on accepte, il faut faire le job, donc c'est pas pour passer son week-end à papoter avec tes copains et sur son téléphone. Donc non, il faut avoir le sourire et parler.
Vous avez raison, il y en a certains comme ça, ou certaines.
Oui, il y en a. C'est pas la majorité.
Non, heureusement. J'imagine que vous êtes dans l'écriture d'un nouveau roman. Où et avec qui nous emmènerez-vous prochainement ?
Alors là, j'ai envoyé un manuscrit pour un concours. Pour essayer de changer, justement, parce que j'ai eu du mal à me sortir de Rebecca. Donc, j'ai écrit une histoire qui se passe dans le sud de la France, sur un thème qui n'a pas été encore très, très utilisé dans le polar. Donc, ça, je suis assez contente d'avoir trouvé ça, parce que s'il faut être original, on est tellement à écrire que trouver une histoire originale, ça devient de plus en plus dur. Et donc là, je ne peux pas en parler parce qu'il est soumis à un jury, là. Ils sont en train de le lire. Et donc, je réfléchis à une prochaine histoire. Donc, soit écrire ce qui n'était absolument pas prévu au départ, la suite de Game Over. Parce que Game Over se termine avec une fin plutôt ouverte, on va dire. Parce que dans la réalité, ça aurait été absolument impossible de le terminer d'une façon crédible sur 250 pages. Donc, soit je vais réfléchir à écrire une suite et une fin à ça, avec d'autres enquêteurs, évidemment. Et soit j'aimerais beaucoup écrire un polar historique. Donc ça, c'est complètement autre chose. Et qui dit polar historique, dit pas chez mon éditeur actuel. Ça, c'est sûr, parce qu'il n'en édite pas, il n'en publie pas. Donc c'est un autre cheminement. C'est-à-dire qu'il va falloir que je recommence quasiment à zéro. Mais ça m'intéresserait beaucoup, parce qu'il y a plein d'époques notamment l'époque des années folles dans les années 20-30 qui m'intéresse beaucoup. Donc pour l'instant, il n'y a rien, je me laisse l'été là, pour décanter un peu tout ça et voir ce que je vais faire en septembre.
Le prochain roman, donc, vous l'avez dit, qui se déroulera dans le sud de la France, signifie-t-il que désormais c'est en Provence que vous écrirez et non plus à Paris, la ville où travaillait Rebecca Delhost ?
La Provence, bon, moi c'est là où j'habite la majeure partie de mon temps maintenant, donc c'est une très belle région. J'avoue que j'avais beaucoup aimé écrire à Pas-de-Loup qui se passait dans les Alpes de Haute-Provence. Je trouve que ça donne un petit cachet en plus que la Crime. Bon, la Crime, je pense que les 6 ans à Paris, là c'est bon, j'ai donné. J'aimerais bien essayer d'écrire quelque chose aussi à l'étranger. Enfin, il y a pas mal de lecteurs qui m'ont dit qu'ils aimaient, malgré la noirceur des enquêtes, un peu s'évader. Je me disais que peut-être écrire, alors moi je suis née au Maroc, donc peut-être écrire aussi une histoire qui se passe au Maroc, pourquoi pas. Et j'ai vraiment là, en ce moment, je suis pas du tout dans le, je réfléchis pas trop à ça, je me laisse vraiment 2 mois tranquille, et peut-être que d'ici dans les 2 mois j'aurai une idée, mais je vous dis, soit écrire la fin, soit écrire de l'historique, soit écrire quelque chose au Maroc, je pense. Donc pour l'instant j'ai tout le champ des possibles qui s'ouvre.
Prenez-vous encore le temps de lire les romans des autres et pas uniquement ceux des Louvres du Polar ?
Ah oui, bien sûr, heureusement. L'année de la création des Louvres, on s'était juste dit que ça serait bien que chacune d'entre nous ait lu au moins un roman de toutes les Louvres, ce qui nous paraissait normal, au moins déjà pour pouvoir en parler. Donc ça, ça a été la première année, effectivement, on s'est quand même consacré aux auteurs francophones, féminines. Et là, je suis en train de lire un livre de Jérôme Loubry, j'ai acheté le dernier de Nicolas Lebel, mes auteurs préférés. En ce moment, en plus, comme je n'écris pas, quand j'écris, c'est plus compliqué pour moi de lire. Et comme en ce moment, je ne réfléchis à rien et que je ne fais que lire, je lis beaucoup d'écrivains. Et toujours dans le polar, hein, quand même.
Bien, tout à l'heure, nous évoquions les séances de dédicace. Il est l'heure de passer à la rubrique quatrième de couverture.
Je ne vous connais pas, je vous frôle, là sur le quai, épaule contre épaule, sur les quatrièmes de couverture, nous cherchons la même aventure, sur les quatrièmes de couverture.
Quatrième de couverture, ce sont nos coups de cœur, les sorties et les dates des prochaines séances dédicaces. Isabelle, quel est votre dernier coup de cœur littéraire ?
Alors, mon dernier coup de cœur littéraire, bon, je pensais à un autre, mais celui-là vraiment m'a vraiment passionné. C'est le premier roman d'un auteur qui est très sympathique chez Fleuve, qui s'appelle Alexandre Murat, et qui a écrit Aranéa, la légende de l'empereur. Il se trouve qu'Alexandre est un descendant de la famille Murat, du maréchal, et donc fan de Napoléon, et toujours dans le côté historique. Je me suis dit que ça serait intéressant, je l'ai rencontré sur un salon, on a bien sympathisé, et je lui ai acheté son livre, et c'est un super roman. On est sur les traces avec des aigles, des petits aigles de Napoléon, et c'est une course-poursuite passionnante. Et c'est le premier tome, il en a écrit 2.
Côté proposition de la quinzaine, notons le nouveau roman de Michel Bussy, Les Ombres du Monde, aux éditions Presse de la Cité. Le roman de Gère Jordet, Le Syndrome du Tir au But, aux éditions Alizio. Le polar de Måns Kallentoft, Été, aux éditions Point. Le roman de Madani Alioua, Une Nouvelle Solitude, aux éditions L'Harmattan. Le Cozy Crime de Frédéric Lenormand, Les Enquêtes d'Hortense Le Chat, aux éditions Presse de la Cité. Le thriller de J.R. Dos Santos, Protocole Chaos, aux éditions Hervé Chopin. Le premier roman de Léonard Cohen, Un ballet de lépreux, aux éditions Point. Le thriller de Matteo Ascaripour, Tous les Invisibles, aux éditions Buchet-Chastel. Le roman de Moa Ergren, Divorce, aux éditions Buchet-Chastel. Le roman historique de Jérôme Chantreau, L'affaire de la rue Transdonat, aux éditions La Tribu. Le polar d'Angela Marsons, Faire le mort, aux éditions Bellefond Noir. Le roman de François Darnaudet, Syd Barrett, Husky et Petite BD, aux éditions Moby Dick. Le cozy crime de Johan Fluck, Meurtre et tarte au citron vert, aux éditions Point. Le roman de David Nichols, Rendez-vous ici aux éditions Bellefond, le polar de Laurent Maillard, Aurélie Van Root, Demain morte aux éditions Moby Dick et le roman de Benjamin Dierstein, L'étendard sanglant élevé aux éditions Flammarion. Pour terminer l'émission, les dates de rencontres et de séances dédicaces, Isabelle, avez-vous des rencontres et séances de dédicaces dans la région proche à annoncer ?
Oui, alors je serai le week-end du 13 septembre au salon du Deschaux, qui est dans le Jura. L'automne sera noir, où en plus j'ai la grande chance d'être marraine du salon. grand honneur pour moi. C'est un tout petit village, mais il y a énormément de lecteurs. Les organisateurs se donnent un mal incroyable. Ils ont une énergie, comme souvent les organisateurs de salons. Et franchement, si vous êtes dans le coin, venez, parce qu'il y a une super affiche avec plein d'auteurs, auteurs et auteureux. Et on est une trentaine, je crois, et sur 2 jours. Ça commence le samedi midi, je crois.
Du côté des séances dédicaces, le samedi 13 septembre 2025, à la salle des fêtes Le Deschaux, dans le Jura, le salon L'Automne sera noir, de 14h30 à 18h, avec la présence d'Arthur Roger, de Nicolas Nuten, de Gérard Sarian, Céline Serva, Sylvie Calais, Isabelle Villain, Clarence Spitz, Magali Collet, Gaël Perrin-Guillet, Laurent Philippari, Pascal Alliot, Mathieu Bertrand, Frédéric Ernotte, Jean-Bernard Émonin, Christine Accardi, Frédéric Bertin-Denis, Christian Guillerme, Guillaume Cocry, Charles Cuny, Patrick Mallet, Nicolas Ragny, Philippe Bétry, Éric Dupuis, Pauline Salvi et Céline Bréant. Le dimanche 14 septembre 2025, toujours à la salle des fêtes Le Deschaux dans le Jura, toujours le salon de l'automne sera noir de 10h à 18h. Le samedi 20 septembre 2025, au centre culturel de l'Odyssée à Pusignan dans le Rhône, le salon du livre de Pusignan de 10h à 18h avec Jacques Maurice et Christophe Royer. Et le dimanche 21 septembre 2025, toujours au centre culturel de l'Odyssée à Pusignan dans le Rhône, toujours le salon du livre de Pusignan de 10h à 17h, toujours avec Jacques Maurice et Christophe Royer. Eh bien, Roman de Gare, c'est terminé pour aujourd'hui. Isabelle Villain, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio B et de Roman de Gare.
Merci à vous. Avec plaisir.
Rappelons que votre dernier roman en date, Game Over, est paru le 16 janvier 2025 aux éditions Tornada. On peut se procurer un peu partout, sans oublier votre autre roman.
Partout, tous les centres culturels, les FNAC, les Cultura, les librairies. Bon, si on recommande, hein, on n'est pas partout, mais en 24 heures, on a un très bon diffuseur. Donc en 24 heures, on commande, il est en librairie.
Sans oublier les médiathèques et les bibliothèques ?
Tout à fait, oui, on est très présents là.
On peut suivre votre actualité sur Internet via les inévitables réseaux sociaux ?
Tout à fait, oui. Facebook, Instagram.
Sans oublier le site Internet de votre éditeur, www.tornada.fr.
Tout à fait.
Et on vous retrouvera donc en séance dédicace au salon L'Automne sera noir à la salle des fêtes de Le Deschaux dans le Jura les samedis 13 et dimanche 14 septembre 2025. La prochaine invitée de Roman de Gare le jeudi 25 septembre 2025 sera l'autrice jurassienne de naissance. Ça vous dit quelque chose, jurassienne de naissance ?
Oui.
Anouk Schutterberg.
Ah, Anouk ! Très
voilà.
Bien.
Elle est née à Tavaux, je crois.
Wadol. Elle est née à Tavaux.
À Tavaux. Ce ne sera pas loin du salon, il me semble, non ?
Non, ben juste à côté, mon mari a fait ses études à Tavaux, pour vous dire.
Anouk Schutterberg, que vous connaissez bien, puisqu'elle est, comme vous, l'une des louves du polar.
Tout à fait.
Elle présentera son quatrième roman, In Extremis, paru le 13 mars 2025 aux éditions Récamier. Vous l'avez lu ?
Oui, c'est le meilleur.
Eh bien, Isabelle, bonne chance pour la suite de vos aventures d'auteur. Bonne séance dédicace et puis à bientôt sur Radio B.
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction ? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close.